Maintenant, on va voir un personnage qui fait la jonction entre la passion et la résurrection, puisque il s'agit de Marie-Madeleine, un personnage aussi féminin. On a vu que des personnages masculins jusqu'à présent. Marie-Madeleine, c'est un personnage, on peut dire, un peu composite, peut-être donner quelques éléments de contexte, puisque parfois il y a des confusions entre Marie-Madeleine et Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, et puis celle qu'on appelle la pécheresse dans Luc, voilà, qui est au pied du Seigneur, voilà, qui n'est pas Marie-Madeleine, en tout cas rien n'indique ça. On dit parfois que Marie-Madeleine était une prostituée, alors parce que Jésus l'aurait délivrée de 7 démons. Alors bon, on a fait parfois le passage avec les 7 péchés capitaux, mais c'est bien plus tardif. Et pourquoi plus un que la luxure que l'autre, voilà, que l'orgueil, etc. Et puis, Marie-Madeleine, voilà, c'est une femme qui a été témoin de la résurrection. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre Marie-Madeleine et Pierre. Quand on cite les apôtres, etc., les disciples de Pierre est nommé d'abord, et quand on cite les saintes femmes, Marie-Madeleine est nommée d'abord, comme s'il y avait une sorte de parallèle entre Pierre, sa position parmi les apôtres, et Marie-Madeleine, sa position parmi les saintes femmes, elle qu'on appelle apôtre des apôtres, vous savez, hein, parce qu'elle a été témoin de la résurrection. C'est intéressant de voir aussi que Marie-Madeleine, on l'a quitté hier soir, vendredi saint, voilà, près du tombeau, hein, et le jour de la résurrection, de grand matin, le soleil étant levé, donc soir matin, évidemment, vous faites le lien avec Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, hein, et on verra dans la vigile pascale que le récit de la Genèse est repris précisément parce que la résurrection est une recréation, et donc Marie-Madeleine est témoin de cette recréation. Parce que peut-être elle l'a vécu dans sa propre chair aussi, on ne sait pas. Hein, elle a été libérée de 7 démons. Est-ce que c'était une emprise, plutôt une démence, une névrose? Est-ce que on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Mais elle a été délivrée, même si on n'a pas de témoignage de sa délivrance. Hein, on a des témoignages d'autres délivrances de la part de Jésus, mais pas de celle-ci. Mais toujours est-il qu'elle a vécu une recréation. Et moi, j'aimerais bien méditer avec vous sur cette dernière méditation, sur la question des blessures. Des blessures, parce que je trouve que c'est une femme qui est assez blessée, en tout cas, de par cette identité un peu confuse, de par le fait qu'elle a été libérée de 7 démons, etc. Et donc, de réfléchir un peu sur les blessures et comment est-ce qu'on gère aussi nos blessures? Vous vous rappelez, on fait bien la différence entre péché et blessure. Hein. La blessure, il y a un côté involontaire. Hein. À quoi est-ce qu'on reconnaît une blessure? C'est une surréaction. C'est-à-dire que on me parle de quelque chose et tout de suite je monte dans les tours alors qu'il n'y a pas de proportion entre ce que l'on m'a dit. Et la réaction que j'ai, il y a une surréaction. De même aussi, vous pouvez avoir des blessures dans le corps, vous touchez le membre douloureux, et tout de suite, voilà, vous sentez que vous avez un mouvement compulsif que vous ne pouvez pas retenir, parce que tellement c'est douloureux, vous voyez. Donc, c'est un peu pareil, mais au niveau de l'âme. Donc, c'est intéressant de nous-mêmes nous dire, tiens, quelles sont ces blessures de l'affectivité, hein, ça vient souvent de la famille, hein, justement, où il y a une disproportion, une souffrance, une disproportion entre la cause et l'effet. Hein. Donc, il y a la cause et l'effet, on surréagit. Et donc, se poser la question, qu'est-ce qu'on t'a fait avec ce qu'on t'a, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? C'est-à-dire, nous avons reçu des blessures dans nos familles, et ça, nous le savons bien. Vous savez qu'il y a 5 grands types de blessures qui sont souvent identifiées. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Voilà, c'est des blessures de l'âme, des blessures de l'affect. Quand on dit de l'âme, c'est-à-dire pas dans le sens religieux, mais de l'affectivité, hein, plutôt, mais qui engendrent parfois des prises de décision qui sont différentes, qui nous emmènent dans le mur, quoi. Donc, je veux dire, tiens, c'est intéressant de voir que Marie-Madeleine qui venait le matin de Pâques prendre soin du corps de Jésus blessé, parce qu'elle a été elle-même blessée, elle a retrouvé dans le contact avec le Christ une guérison. Je vais dire quelques mots sur les guérisons qu'on appelle psychospirituelles, en tout cas les sessions de guérison psychospirituelle. Je trouve qu'il faut être assez, assez prudent sur ces. Il y a eu parfois de l'abus sur ces questions-là, etc. Premièrement, la psychologie, bon, ça, c'est une science qui est une science humaine et qui peut repérer un certain nombre de blessures. Et donc, on peut avoir aussi des moyens pour pouvoir guérir à travers un professionnel. Hein. De fait, si vous avez mal aux dents, vous allez voir le dentiste. Mais pour des blessures de l'affectivité, par exemple, ben, il y a des professionnels. Je pense que c'est bien de distinguer les deux ordres, de l'ordre professionnel, humain, hein, et l'ordre spirituel, religieux. Hein. Donc, mais aussi, le Seigneur peut donner des grâces particulières. Alors, de façon habituelle, c'est par les sacrements. Vous savez, c'est par les sacrements que le Seigneur donne des grâces à travers le sacrement singulièrement de la réconciliation. Il nous vient aussi déposer le baume de son Saint-Esprit. Je pense que c'est le rôle du Saint-Esprit aussi de venir nous apaiser intérieurement, justement de nous rendre la paix. Et c'est là où on a, j'allais dire, on a prise autant sur la blessure, on n'a pas forcément pris, elle n'est pas volontaire, elle nous fait faire voir des actes involontaires, etc. Mais là où on peut, même si on fait des actes involontaires, on peut toujours volontairement prendre conscience de ça et prendre les moyens de guérir de ça. Et je crois que là notre liberté, elle est engagée et on est invité vraiment à nous laisser transformer et à prendre les moyens à la fois humains et à la fois spirituels pour pouvoir guérir de ces blessures, de ces blessures qui peuvent venir, je voulais dire, de la famille, je vous l'ai dit, des expériences personnelles, des deuils, des attaques contre l'intégrité physique, hein, de l'insécurité. Une chose, c'est l'événement que j'ai vécu, et l'autre chose, c'est la manière dont j'ai de réagir par rapport à certaines paroles ou événements qui réactivent la blessure que j'ai subie. Donc, la conséquence des blessures, c'est évidemment, on voit que la relation est plus difficile. Hein, voilà, difficulté à gérer ses émotions, des débordements des émotions, de la colère, de l'anxiété, de la peur. Il y a donc en moi une manière de réagir qui n'est pas adaptée à ce que je peux faire, le manque de confiance en moi aussi, qui vient de ma blessure. Et donc l'importance de travailler avec les deux outils, et humains et spirituels, qui nous sont donnés. Hein, voilà, donc, et apprendre aussi à rentrer dans une maîtrise de soi, qui est un des fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire un apaisement, parce qu'on ne peut pas être en colère toute sa vie, on ne peut pas être dans une attitude d'agressivité toute sa vie parce qu'on a été blessé. Vous savez, il y a le triangle de Cartman, hein, le triangle de Cartman, qui sont ces trois attitudes toxiques de relation, bourreau, sauveur et victime. Je ne peux pas toute ma vie me considérer comme une victime. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a des gens qui font ça. Ils se considèrent comme une victime. Et je trouve que c'est beau dans l'image de Marie-Madeleine. On suppose que c'est une femme qui a été blessée. Elle a été libérée. Elle a été blessée. Est-ce que c'est une blessure plutôt de névrose? Est-ce que c'est une blessure liée à ses actions? Bon, un peu dissensueuse, voilà, on sait pas trop, parce que aussi il y a l'idée de que peut-être on dit Marie de Magdala parce que Magdala était, que les habitants étaient connus pour avoir des mœurs assez libres, assez dissensueuses, etc. Bon, toujours est-il qu'il y a eu des blessures liées à son corps, sur sa peau, de voir que de ses blessures, elle s'est pas enfermée là-dedans et elle a voulu prendre soin du corps de Jésus, et avec cette surprise de la résurrection quand elle est arrivée au tombeau vide. Hein, et juste un petit point par rapport au tombeau vide, le fait qui pour le coup atteste de l'historicité du tombeau vide, Parce que jamais on n'aurait choisi au temps biblique une femme pour donner témoignage de ça. Alors, vous savez que les femmes, au temps biblique, n'étaient pas admises dans les tribunaux comme témoins. Et que le témoignage d'une femme était toujours pris à la dérision. Donc, si on avait voulu, si les évangélistes avaient voulu, d'une certaine manière, donner une autorité au tombeau vide, ben, ils auraient pris plus un Pierre, plus un homme, voilà, ou pourquoi pas un membre du Sanhédrin. Et là, c'est intéressant, ils ont pris une femme en plus. Voilà, de laquelle j'ai chassé cette démon, alors que le témoignage des femmes était considéré comme peu fiable, et donc voilà, ils n'avaient pas de droit de témoigner dans les tribunaux. Donc je me dis, c'est intéressant de voir qu'au fond, ce choix-là, c'est pas un choix, c'est vraiment, ça atteste du tombeau vide, ça joue en faveur du tombeau vide. Et ce que je trouve beau, justement, par rapport à revenir à Cartman, le lien avec les blessures, c'est que Marie-Madeleine s'est pas enfermée dans une, j'allais dire, attitude de victime. Hein, c'est pas enfermé, elle est devenue apôtre, ce qu'on appelle apôtre des apôtres. Va, dis à tes frères, etc. Une fois la résurrection, elle s'est pas enfermée. Et ça, je pense que c'est important de nous-mêmes réfléchir par rapport à ce qu'on a pu avoir comme blessure dans notre vie. Hein, les cinq dont je vous ai parlé, là, le rejet, l'abandon, les blessures, l'humiliation, la trahison, l'injustice, voilà. Toutes les blessures d'abandon, avec les manques de confiance en soi, le désir, qu'est-ce que ça nous fait faire comme pas pour, au fond, désirer être sécurisé, donc on peut aller parfois de bras en bras, etc., alors que c'est pas là qu'on aura une sécurité dans l'amour. Hein, donc, je crois que c'est beau, en tout cas, de transfigurer la blessure. Hein, c'est ce qu'a fait Marie-Madeleine. Hein, en étant au service du corps blessé du Christ, hein, et au service du corps du Christ, le début de l'Église, là, une Église tout à fait naissante, au matin de la résurrection, en allant témoigner, elle n'a pas eu peur alors qu'on savait qu'elle avait été libérée de cette démon, qu'elle avait certainement une étiquette sur le front, ben c'est la femme de Magdala, c'est la femme qui a été libérée de cette démon. Ça. Elle ne s'est pas préoccupée de ça, elle est sortie elle a été une liberté intérieure, c'est pour ça que c'est une recréation. Il y eut un soir, il y eut un matin, deux grands matins, voilà. Il y a une nouveauté qui est née dans la vie de Marie-Madeleine, qui a fait d'elle un témoin. Et je trouve ça bien aussi que dans notre vie, de voir la nouveauté qu'apporte le Christ, en quoi ça nous pousse aussi au témoignage. Et plus que vous le croyez, plus que vous le croyez, votre parole, vous, jeune professionnel, aujourd'hui en 2024, votre parole est attendue. Ça, j'en ai la conviction. J'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour votre génération. Et je crois que votre génération a vraiment aura des, j'allais dire, des défis considérables à gérer, que ce soit au plan climatique, au plan on parle de l'intelligence artificielle, de tout ce que ça va donner comme modification dans les rapports humains, etc., dans les rapports professionnels. Bon, évidemment, le défi de la paix aussi, le défi, bon. Défis démographiques, bon, des migrations, voilà, beaucoup de choses vous attendent, et je crois que c'est important que vous ayez une parole, vous soyez témoin. Encore une fois, plus que vous ne le croyez, votre parole est attendue. Hein, et d'où l'importance aussi de se former. Je trouve que parfois, moi, j'accompagne beaucoup votre génération, parce que j'ai beaucoup de tendresse pour vous et d'affection pour cette génération-là, des 25-35, ce qu'on appelle jeunes professionnels. Mais ce que je note, c'est qu'il y a un gap entre le fait que vous soyez très formés au plan professionnel. Beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous, vous avez fait, en tout cas ceux qui sont ici, des études supérieures, vous avez eu une formation professionnelle, etc. Mais au niveau spirituel, un certain nombre sont restés avec la dimension du catéchisme, le niveau catéchisme. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui ne convient pas, parce que voilà, notre intelligence, est au service de notre foi. La foi élève l'intelligence à des réalités qui ne sont pas accessibles aux cinq sens. Donc, je trouve ça intéressant que le fait de vous former, c'est vrai, je vous félicite de participer de cette retraite, parce que à travers cette retraite, c'est vraiment une formation que vous recevez aussi, à travers les topos, à travers la liturgie, tout ça vous donne d'approfondir votre foi, parce que vous aurez à témoigner, et plus que vous ne le croyez, vous êtes mieux armé que d'autres pour pouvoir aborder et affronter les difficultés qui viennent. Je pense que vous êtes beaucoup mieux armé que d'autres. Beaucoup dans notre société de jeunes de votre âge sont vraiment paumés, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur. Ils ne savent pas du tout, ils sont dans une très très grande confusion. Ils ne savent pas du tout où aller. Alors que vous savez à quelle porte frapper, vers quelle communauté vous vous tournez, vers quelle croyance vous appuyez pour votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Je veux dire, prenez conscience de la grâce que vous avez d'être disciple de Jésus, d'être membre de l'Église. Vous avez le plus grand réseau au monde, si on raisonne comme ça. On n'a pas attendu les réseaux sociaux, hein. L'Église a fonctionné comme un réseau dès le début de sa naissance, avec l'Église de Corinthe. On voit Paul qui crée différentes églises à un certain nombre d'endroits, etc. Et c'était le véritable réseau. Et ce qui fait que même si on voyageait, on trouvait quelqu'un de sa communauté. Et vous savez donc à quelle porte frapper. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel c'est important de rendre grâce pour ça. Et ça vous donne aussi une responsabilité. Je trouve ça. D'autres peuvent faire le bien, évidemment. On n'a pas l'exclusivité du bien, heureusement, sinon ce serait terrible. Mais on sent qu'on a la responsabilité. Et le fait d'être disciple de Jésus, de croire en sa résurrection, fait qu'il y a quelque chose de neuf qui peut surgir. Et si ça surgit, ça surgira de vous. Je crois que moi, je suis très marqué par la réconciliation franco-allemande qui est née au fond de catholiques, hein. Que ce soit Schumann, Adenauer, de Gasperi, c'était des chrétiens et des chrétiens catholiques. Et ça, c'est important de dire des catholiques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas liés à un pays, il y avait une dimension universaliste. Dans le catholicisme, il y a une dimension universaliste que vous n'avez pas, par exemple, dans l'orthodoxie, où ce sont des églises qui sont liées à des nations. Donc, ce qui fait qu'ils sont pas, ces trois-là sont passés au-delà du nationalisme, hein, pourtant ils étaient patriotes, hein, profondément patriotes, hein, de leur propre pays, mais ils ont dit, ce n'est pas le nationalisme qui va, pour relever l'Europe, il faut autre chose. Ah, et voilà, et la fondation de l'Europe et la réconciliation franco-allemande, et de voir comment au fond, voilà, ça a été quelque chose absolument extraordinaire. Après, on peut dire 150 ans, si on part des guerres napoléoniennes, la victoire d'Iéna, etc. Bon, on voit bien qu'il y a 150 ans de guerre entre l'Allemagne et la France, par exemple. Et finalement, pour arriver à l'Europe, hein, qui a été la bonne manière de sortir de cet affrontement, quoi. Donc, et ce sont des chrétiens catholiques qui en sont à l'origine et qui ont eu le courage politique. On imagine bien, vous imaginez quelqu'un qui demande au sortir de la guerre de faire la communauté européenne du charbon et de l'acier, qu'on appelle la CECA. Hein, voilà, donc c'est ce qui a servi à nous taper dessus, l'énergie et l'acier, enfin, nous servir à nous unir, on va mettre en commun, on va fédérer. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est qui va trouver une sortie nouvelle, une nouveauté, parce que pensez beaucoup ça aussi, la résurrection, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et les chrétiens, eux ont une responsabilité là-dessus. Qui va trouver, qui va se lever pour cet affrontement dont on ne sort plus entre Israéliens et Palestiniens, pour les affrontements. Quels sont les modèles que l'on va trouver pour pouvoir sortir de ça? Et je pense que c'est à votre génération qu'est confié ça. Alors c'est un peu lourd peut-être à porter, mais vous avez aussi les ressources, d'où l'importance de vous former, d'où l'importance de vous enraciner dans la prière. Hein, et d'être vraiment des hommes et des femmes debout, hein, comme une Marie-Madeleine qui, debout, voilà, debout, c'est-à-dire, ça veut dire ressusciter, c'est ce que ça veut dire aussi, debout, hein, voilà, qui va de grand matin auprès du tombeau pour et finalement elle découvre cette nouveauté absolument extraordinaire. Donc et puis c'est elle qui se fait appeler par son nom. Alors c'est dans Saint Jean uniquement, hein, Marie Rabouni, vous savez, vous connaissez, hein, ce passage-là dans Saint Jean, hein, où être appelé par son nom, c'est entrer dans une relation et une relation nouvelle, hein. À un moment donné, Jésus lui dit, ben voilà, ne me retiens pas, hein, en latin on dit no limi tangere, c'est-à-dire ne me retiens pas, je dois aller vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Voilà, et faire rentrer Marie-Madeleine, qu'on peut dire, qui était assez tactile, on peut peut-être au moins dire ça. Jésus fait rentrer Marie-Madeleine dans une autre forme de relation. Et je trouve que la résurrection, ça ouvre aussi une autre porte dans nos manières d'être entrés en relation. Et le fait de dire que Jésus l'appelle par son nom, aussi, il y a peu d'apôtres que Jésus a appelés par leur nom. Il y a Pierre, et encore une fois, peut-être ce parallèle entre Pierre et Madeleine pour les apôtres masculins et les saintes femmes du côté de Marie-Madeleine. Il y a Thomas, on parle d'apôtre. Hein. Apôtre, c'est qui ont été témoins de la résurrection, c'est ce que ça veut dire, apôtre. Hein. Qui ont été témoins de la résurrection, qui ont connu Jésus de son vivant, le Jésus historique, et qui ont été témoins de la résurrection. Mais il y en a très peu qui ont été appelés par leur nom. Et le fait que Marie-Madeleine ait été appelée par son nom, appelée par le nom, c'est très fort le nom, parce que c'est désigner la personne, et donc désigner une relation possible, une nouveauté dans la relation. Et je trouve ça, c'est très beau de voir comment Jésus la guérit aussi, la transcende complètement à travers Marie, voilà, Rabouni, voilà, c'est... Et puis ensuite, voilà, et ensuite elle est allée témoigner auprès des autres apôtres, etc., qui étaient complètement atterrés. Bon, bref, donc, bon, voilà, je trouve que c'est beau de voir comment Jésus choisit les gens blessés aussi. Il choisit les gens blessés, il a choisi, par exemple, une chose qui est étonnante, il n'y a aucun récit de la rencontre de Jésus avec sa mère, une fois ressuscité. Il n'y a pas de récit, alors on se dit, mais au fond, Marie n'en avait pas besoin parce qu'elle avait une telle foi, etc. C'est uniquement le retour au moment de la Pentecôte, etc., au Cénacle, mais il n'y a pas de récit. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que Jésus a choisi cette femme qui peut-être avait mauvaise réputation, n'en sait rien, qui en tout cas avait été blessée, qui avait été relevée. Il l'a choisie pour être témoin, hein, comme il fait de nous aussi. Nous sommes des personnes blessées, mais ne prétextons pas de nos blessures pour ne pas témoigner. C'est le prophète Habacuc qui dit, hein, deux rayons sortent de ses mains, c'est là que se tient cachée sa puissance. Vous rappelez, donc deux rayons sortent, évidemment on pense aux mains du Christ transpercées, et de ces blessures-là, ce sont des blessures lumineuses. Et ça c'est vraiment la résurrection. Je trouve ça très beau dans l'évocation de la résurrection dans le film de La Passion de Mel Gibson, où on voit quelqu'un qui est dans un contre-jour très éblouissant, qui écarte les mains, et on voit dans le creux de ses mains deux trous. Voilà, donc c'est un trou dans chaque main, etc. Voilà, ces blessures-là sont lumineuses. Et je trouve que Marie-Madeleine, c'est l'expérience de blessures lumineuses, hein, d'une femme... Voilà, qui a eu ses difficultés, qui a eu ses hauts et ses bas, et qui a été choisi à l'égal de Pierre pour les femmes, hein, pour être apôtre des apôtres. Donc, et ça, je pense que c'est intéressant de voir que Paul VI, par exemple, a dit, et il est beaucoup plus juste de voir Marie-Madeleine comme une disciple que de la voir comme une pénitente. Hein, c'est beaucoup plus juste, en tout cas, beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce qui parfois nous empêche de sortir, j'allais dire, de nos blessures qui nous empêchent d'avancer. Bon, la question du déni. Il y a parfois des quelque chose à dénouer en moi, qui sont mal câblés. Qu'est-ce qui va faire que j'ai pas encore pris conscience qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être guéri. Donc le déni. Sortir de la victimisation. Il y a des personnes qui se repaissent de leur état de victime, par exemple. Bon, ben ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas du tout en place, qui n'est pas, ou de la rationalisation, sortir de la rationalisation. La rationalisation, c'est une excuse aussi pour ne pas voir ce qu'on accuse des autres, c'est-à-dire que on se donne des raisons d'agir comme on agit. Parce qu'au fond, oui, ben, c'est bien la faute d'un. Moi, si j'agis, c'est bien de sa faute à lui, et c'est lui d'abord le coupable, et sans aucune remise en question. Donc, ça, c'est la rationalisation. Et puis, comment sortir de ces blessures, je trouve, c'est poser des petits actes. Là, qu'est-ce qui est à ma portée, par exemple? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a un acte de pardon qui est à ma portée? Je demande de l'aide. Je reste pas seul. Hein. Se laisser aimer, c'est se laisser aider. On le sait très bien. Et puis un autre point qui peut aussi vous aider beaucoup, c'est tirer les leçons de l'expérience. Hein. Et donc être sur ses gardes par rapport à sa manière de réagir. Vous savez que le philosophe dit. Connais-toi toi-même, mais le saint dit méfie-toi de toi-même. Et ça, c'est tout à fait différent, le fait de se méfier de soi-même, parce que justement, on sait très bien que parfois on a des manières d'agir, de réagir, des actes que l'on pose, parce qu'on n'a pas une suffisante connaissance de soi-même, on ne s'est pas préservé de situations qui nous pousseraient elles-mêmes à la faute. Vous voyez, c'est les actes antérieurs qui nous poussent ensuite à la faute. Hein. Donc, voilà, ça, je pense que c'est intéressant aussi. Avant le péché, avant de passer à l'acte mauvais, il y a eu des warnings. On n'a pas écouté les warnings. On n'a pas écouté les warnings et on s'est mis là-dedans alors qu'on savait très bien qu'on était dans notre, on n'était pas du tout dans notre zone de confort, on était dans notre zone de grande fragilité. Et on y est quand même allé. Hein, c'est ce qu'on appelle les occasions proches du péché. Voilà. Je suis allé dans une occasion et puis finalement je suis tombé. Parce qu'on sait très bien que l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Et donc on est allé là où on est. Et forcément, ça mal. Donc tirer les leçons de l'expérience, c'est important ça. Et aussi dans cette grande confiance, la blessure peut porter du fruit. Hein, c'est vraiment. On voit des tas de gens blessés hein, qui rayonnent en étant blessés. Hein. Vous vous rappelez cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, car ils me font un Dieu, qu'ils prennent ma nature, qu'ils deviennent mon frère et qu'ils puissent souffrir. Voilà. Nous sommes notre psychologie est douloureuse, parfois notre corps est douloureux, hein, mais c'est à travers ces humanités blessées que nous sommes, les uns et les autres, que Jésus s'est rapproché par son corps blessé, bon, bien sûr, pas par le péché, évidemment, mais en tout cas, il s'est laissé blesser dans son corps et pour pouvoir nous rejoindre et faire de nous aussi des êtres debout et faire de nous des êtres qui puissent rayonner aussi à travers nos blessures. Hein. Hein, vous connaissez peut-être je sais pas si c'est un dicton, mais en tout cas, un bon mot, hein, bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Voilà, bienheureux les fêlés, c'est une sorte de jeu de mots, voilà, mais bon, c'est pour dire, voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas intact qu'on ne peut pas porter du fruit, c'est pas parce qu'on n'est pas intact qu'on ne peut pas être témoin. Voilà, ceci fallait être impeccable, une sorte d'impeccabilité, etc. Voilà, c'est pas ça que Jésus choisit, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est. D'où penser à un accompagnement peut-être. D'un professionnel, je dis, mais pensez aussi à un accompagnement spirituel qui vous aide à progresser dans la foi. Et puis, évidemment, c'est l'invitation à une profonde confiance, au fond, le fait de ces blessures, de même que Marie-Madeleine n'a pas regardé, n'a pas vécu sous le regard des autres, etc. Elle s'est laissée toucher par le Seigneur, elle est allée à la rencontre. Nous croyons en un Dieu blessé. Hein, et dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Hein, donc, et le fait de ne pas avoir peur de montrer ces blessures, je trouve ça important, en tout cas, vous savez que je suis très impliqué dans les préparations au mariage, etc., de montrer sa vulnérabilité. Je trouve que c'est ça qui fait que c'est un des signes qu'on est sécurisé dans l'amour. Vous voyez, c'est un des signes qui montre que. Au fond, on a une sécurité dans l'amour qui permet d'avancer. Je ne suis pas toujours en train de prouver. Je ne suis pas toujours en train de montrer. Mais le fait de montrer ma vulnérabilité et fait que je ne la considère pas toujours comme une menace, mais au contraire comme une opportunité pour pouvoir rayonner. Donc, ça me donne une espérance. La connaissance de Jésus me donne, et la connaissance des saints, de voir que les saints, et entre autres Sainte Marie-Madeleine, mais ce n'est pas la seule, hein, les saints ont été vraiment des personnes qui étaient loin d'être impeccables. On sait bien, la sainteté n'est pas l'impeccabilité, hein, mais qui ont eu une espérance en eux. Et le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait, mais on a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Hein, et de faire de nos pauvretés des richesses. Et donc, je trouve que c'est ça, la vie des saints, c'est beaucoup ça. C'est des gens qui étaient limités physiquement, voire dans le caractère. Hein, on parle d'un caractère impossible d'un saint Jérôme, par exemple, ou même plus proche, un saint François de Sales. On a retrouvé sous son bureau des traces qu'il faisait avec ses pieds sur le parquet. Il avait entamé le parquet tellement il était nerveux, par exemple. C'était quelqu'un, voilà, il y avait des tas de choses qui n'allaient pas. Ils n'étaient pas lisses. Ce n'étaient pas des personnalités lisses, les saints. Et je trouve que le fait que nous-mêmes, nous ne soyons pas non plus des personnalités lisses, ne nous interdit pas, au contraire, d'être choisis, de répondre à l'appel de Dieu et de pouvoir témoigner, d'être là face au tombeau vide, c'est-à-dire face à une nouveauté totale. Ben, Jésus vient aussi nous renouveler. Hein, voici que je fais toute chose nouvelle. Voici que je fais toute chose nouvelle. Hein, c'est ceci. Alors que ça c'est pas là-dedans, c'est dans. C'est pas dans les récits de la Passion, mais Mel Gibson le met dans la bouche du Christ au moment de la Passion. C'est très beau, cette manière de voir. Il dit, voici que je fais toute chose nouvelle. C'est en prenant sur moi les blessures de l'humanité, hein, pas seulement mes propres blessures, hein, la personne humaine blessée, et aussi par le péché, évidemment, eh bien, je renouvelle quelque chose d'une nouveauté. C'est ça, la résurrection, c'est une nouveauté, c'est du neuf. On ne s'y attendait pas. C'est quelque chose absolument inédit, absolument inédit. Et nous sommes la religion du neuf. Hein, on tire, comme dit Jésus, hein, de son trésor, il tire du neuf et de l'ancien. Voilà, et ben nous, c'est pareil. Il y a quelque chose de neuf dans notre. Et faire et des nouveautés, des choses auxquelles on n'a pas pensé, particulièrement en matière de relations humaines. Dans des contextes qui sont compliqués, eh bien, je trouve que les chrétiens sont mieux armés. À eux de sortir du bois, à eux de s'impliquer, à eux de voir comment les apôtres, tout pauvres, tout penauds, tout peureux, après la résurrection, bah, ont rayonné, voilà, dans tout le monde entier, voilà, par la puissance du Saint-Esprit, et parce qu'aussi, bon, ils ont pris conscience que le Saint-Esprit les habitait. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur Marie-Madeleine, qui fait une jonction, une belle jonction entre la Passion et la résurrection. Hein, c'est une femme charnière, on peut dire, de ce point de vue-là, Marie-Madeleine. Alors vous savez qu'elle est, on a la grâce d'avoir. La Sainte-Baume qui est dans le sud, donc en Provence. Il semblerait que Marie-Madeleine ait débarqué à Sainte-Marie-de-la-Mer. Il semblerait que ça, en tout cas la tradition nous dit ça. Elle s'est réfugiée dans une grotte, donc en Provence, hein, dans le massif de la Sainte-Baume. Voilà. Et c'est les Dominicains qui ont la charge de ce lieu de pèlerinage désormais, hein, depuis déjà plusieurs années. Et il faut un certain nombre de lieux spirituels, c'est vraiment un très beau lieu, quoi. Donc, je trouve ça très, très, très beau de voir cette Marie-Madeleine, voilà, qui nous rejoint, dont on a, voilà, il y a un lieu de pèlerinage, j'allais dire, en France, voilà, pour aussi tous ceux qui demandent des guérisons, aussi toutes les femmes. Je sais que les pères dominicains ont mis tout un parcours de guérison des conséquences des avortements, par exemple. Voilà, ils ont mis en place ça auprès de Marie-Madeleine, de personnes qui ont besoin d'un réconfort, d'un baume, du baume du Saint-Esprit, pour être appelés à être des témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.